à tous et à toutes. D'abord, même si vous ne l'avez pas fait, ma soeur, je vais quand même me présenter un tout petit peu. Je suis le Père Jean-Joseph. Je suis donc le nouveau supérieur de la communauté des frères, en remplacement du Père Marie-Jacques et du Frère François-Emmanuel, qui assurait le temps entre les deux. Je suis un Français-Français, vraiment. Donc j'apprends à m'inculturer progressivement. Voilà. Des choses, vous avez 55 ans d'habitude, ça se change pas comme ça, donc voilà. Et ma tâche avant était d'abord d'être curé de paroisse, parce que j'étais curé dans le sud de la France, à Brignoles, c'est au nord de Toulon, pendant 9 ans, et 13 ans à Lorient, dans la Bretagne. Voilà. Donc je vais essayer de faire, parce que c'est toujours difficile de savoir Marie garder et méditer toutes ces choses dans son cœur. On ne sait pas exactement comment Marie le faisait, c'est quelque chose qui nous échappe un peu. Mais j'ai essayé de regarder ça avec vous. Et on va méditer les mystères de la vie, les mystères joyeux de la vie de Marie. Et puis, de toute façon, si on n'a pas tout à fait terminé, vous savez qu'il faudrait méditer aussi dans la vie apostolique à partir du Cana, et aussi ce que Marie a fait, comment elle a suivi Jésus dans son mystère de la Passion. Donc je vais faire juste l'aspect des premières années, je dirais de tout début. Et si jamais j'ai pas le temps de finir ça, je reviendrai sur le dernier point que j'ai fait, qui est ici de résumer les différentes attitudes intérieures que nous pouvons avoir, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas. Alors vous avez deux choses où il faut que vous médiez. J'ai une tendance à parler trop vite, mais on me l'a déjà dit en France, donc c'est encore brouillé. Et j'ai une tendance à pas tout à fait articuler quand je m'emballe. Donc, il faut seulement que vous leviez la main, votre père, c'est trop vite, ou voilà. Je sais que j'ai ces défauts-là, donc je ne suis pas vexé. Donc, la phrase que vous avez mise sur le petit prospectus, Marie retenait tous ses événements et les méditait dans son cœur, se trouve citée plusieurs fois dans l'Évangile. La première fois, c'est juste après la naissance de Jésus et la visite des bergers à la crèche, qui raconte la vision qu'ils ont eue des anges. Et c'est donc dans Saint Luc au chapitre 2, verset 19. Et on le retrouve un peu plus loin, quelques versets plus loin, après le recouvrement au temple. Donc pour cette partie-là, Marie garde tous ces événements de l'enfance du Christ dans son cœur et les médite, comme elle le faisait sans aucun doute de toute parole de Dieu entendue et gardée par elle. Elle le fera durant toute sa vie aux côtés du Seigneur, ainsi des noces de Cana, qui ne sont transmises que par Saint Jean, et sans doute aussi les évangiles de l'enfance de Saint Matthieu, la visite des mages, l'annonciation à Joseph, etc. Pour mieux comprendre comment Marie faisait les choses, je vous propose de regarder le Magnificat en premier lieu. Donc c'est dans Saint Luc au chapitre 1, dans la partie des versets 46 jusqu'au 56. Lorsque nous lisons et méditons le Magnificat, nous sommes étonnés d'y découvrir la présence de nombreuses paroles de l'Ancien Testament rassemblées par Marie pour exprimer son action de grâce. Alors, vous savez que parfois, vous lisez dans les commentaires que dans ces cas-là, Luc aurait rassemblé un certain nombre de paroles qui peuvent exprimer l'état d'esprit de la Vierge Marie. C'est possible. En fait, moi, ce que j'aime bien regarder dans ces choses-là, c'est que Marie garde tellement toute parole de Dieu qu'elle entend, qu'elle soit en famille, dans les prières en famille, ou qu'elle se soit quand elle est au temple. En fait, dans tout ce qu'elle entend comme parole de Dieu, elle va garder cette parole de Dieu dans son cœur. Et la parole de Dieu va devenir comme son milieu naturel, comme sa langue maternelle. J'explique ça. Il y a un passage de l'Évangile que vous trouvez par exemple dans Saint Luc au chapitre 8, versets 19 à 21, où Jésus dit « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut écouter la parole de Dieu pour être ami avec Jésus, c'est ça? Et vous voyez, dans ces cas-là, vous mettez une sorte de condition. En général, ce n'est pas comme ça que Jésus fonctionne. Donc, il ne peut s'agir que d'une simple injonction morale. Jésus parle d'une langue maternelle, apprise en famille. Jésus voudrait que la parole de Dieu, et bien sûr sa parole, soit comme une langue maternelle, familiale pour nous. C'est ainsi que nous faisons partie de sa famille. La langue maternelle crée une proximité, une intimité entre les différents membres de la famille. Et nous le voyons quand nous sommes dans une famille qui n'est pas la nôtre, nous nous sentons extérieurs, parce qu'il y a des choses que cette langue insinue et que nous n'entendons pas. J'avais remarqué ça le jour où j'ai eu des belles-sœurs. Quand j'ai eu des belles-sœurs, elles étaient là, à table avec nous, et donc les frères, les trois garçons, nous avions été dans le même collège et le même lycée. Et quand on parlait, on commençait des imitations de profs, et souvent on ne terminait même pas, et on était tous en train de rire. Et on voyait nos belles-sœurs qui nous regardaient, mes belles-sœurs qui nous regardaient en disant, mais c'est pas vrai, pourquoi on ne comprend rien à ce qu'ils disent. Parce que il y a une manière de vivre les choses qui est propre à une famille. Et ça, c'est un exemple très bête extérieur, mais après, vous le voyez bien, il y a des choses qui font partie du patrimoine, de la tradition familiale, des choses qui viennent de l'histoire de cette famille, et quand vous entrez dans cette famille, vous êtes extérieur à ça. D'accord ? Mais quand c'est notre famille, nous sommes pleinement partants de tout ça. Vous voyez, ma maman, elle n'est pas âgée, mais il y a des moments où elle commence à me redire, 3 ou 4 jours après, la même histoire qu'elle m'avait dite auparavant, donc je sais. Mais parfois, elle le dit en insistant sur un autre point. Mais comme je sais tout ce qu'il y a derrière, c'est facile de la suivre. Et je suis pas sûr que quelqu'un d'extérieur pourrait la suivre aussi facilement. Vous voyez ce que j'essaie de dire? Cette langue maternelle qui inclut une tradition. Ben, la parole de Dieu, c'est ça. Sauf que, et là, j'ai un petit aparté qui n'est pas dans mes notes, la parole de Dieu, nous avons l'habitude de la regarder comme un journal. Vous lisez la parole de Dieu comme vous lisez la Libre Belgique. Exactement de la même manière. Sauf que, quand vous lisez la parole de Dieu, le bon Dieu s'est exprimé à travers des récits d'histoire. La Genèse, l'Exode, l'idée Samuel, le livre des Rois, d'accord ? Donc Dieu a été à un moment donné un historien. À d'autres moments, Dieu ne s'est plus à raconter les choses de manière poétique. Le livre de Job, le cantique des cantiques, les psaumes, des passages dans les livres historiques, le cantique d'Anne, par exemple, dans le livre de Samuel. À d'autres moments, Dieu ne s'est plus à exprimer les choses par des livres, par des passage de sagesse, le livre de la sagesse, Coëlette, etc. À d'autres moments, Dieu ne sait plus à être dans un style apocalyptique, le livre de Daniel, le livre de l'Apocalypse, par exemple, plus tard. Il y a des notes différentes selon les livres. Et il y a des livres prophétiques, évidemment, c'est une grosse partie de la Bible. Vous ne lisez pas les choses de la même manière. Enfin, j'espère que vous ne lisez pas Charles Baudelaire de la même manière que vous lisez le journal du coin. Et de la même manière que vous lisez une recette de cuisine, j'espère que ça ne vous procure pas la même émotion, la recette de cuisine, que Charles Baudelaire, j'espère. Oui, nous lisons les choses bien souvent sans entrer dans l'intention. Et donc il y a une histoire. Abraham, ça évoque quelque chose pour vous. Moïse, ça évoque quelque chose pour vous. Et je ne prends que les grands personnages, vous voyez. David, ça évoque quelque chose pour vous. C'est une histoire familiale. Si on parle de David, je n'ai pas besoin de faire de longues explications pour que vous sachiez de qui il s'agit. Nous sommes dans un milieu familial, une histoire familiale. C'est notre histoire. C'est notre milieu. Et la Vierge Marie, quand elle lit la parole de Dieu, parce qu'elle est avide de cette parole de Dieu, et je vais y revenir, elle est imprégnée de cette parole et elle l'écoute parce qu'elle en a besoin pour vivre. Ça va ? D'autre part, cette parole reçue par Marie est la véritable lumière qui éclaire sa vie. Elle le dévoile dans le Magnificat. Et qui éclaire aussi la vie de son peuple. Dans le Magnificat, elle prend cette parole de Dieu pour expliquer ce qui vient lui arriver. Elle prend cette parole de Dieu pour expliquer ce qui arrive à la vie de son peuple. Donc pour comprendre ce qui lui arrive dans sa vie personnelle et dans la vie de son peuple, c'est la parole de Dieu qu'elle reçoit comme lumière. Si je vous disais de lire l'Évangile pour comprendre ce qui vous arrive dans votre vie, vous allez dire, oh, le Père, il est un peu trop mystique pour nous, il est complètement dérangé. Pourtant, ça devrait être comme ça. C'est petit à petit, à force de la lire, de la méditer, de la recevoir, que la parole de Dieu devient une lumière pour vous. Vous l'avez parfois vécu, j'espère en tout cas. Moi, parfois, en écoutant une homélie d'un prêtre, ça m'arrive de découvrir, le prêtre décrire ma situation intérieure, et à travers la parole de Dieu, et me donner la solution. Oui, la parole de Dieu, Dieu m'a dit que la parole de Dieu doit être au mon milieu. Et je vous signale juste que quand vous avez bien écouté une homélie, vous l'avez beaucoup aimée, n'allez pas dire au prêtre que votre homélie était belle. Que ce sont ses mots à lui. En revanche, l'homélie renvoie à la parole de Dieu que vous avez mieux comprise. Donc la parole de Dieu était belle. La parole de Dieu était lumineuse. C'est pas l'homélie du prêtre. Oui. Sinon, vous regardez le doigt qui montre la lumière en disant le doigt est beau. Mais le doigt indique la lumière. Donc elle sait Dieu tellement engagé par son amour dans sa vie à elle de petite créature que cette parole devient une lumière. Alors en quoi cette parole, elle est proche? Et ça, c'est, je vais essayer de D'abord par sa proximité, la parole de Dieu dit la présence de Dieu. Maman gardait des enfants. Et parfois, les enfants étaient dans un parc, vous savez, ou dans un baby relax. Bon, un baby relax, vous pouvez le transporter dans une autre pièce. Mais l'enfant dans le parc ne peut pas bouger le parc. Et donc, quand il ne voit plus la personne qu'il aime, il s'inquiète. Et donc, on parle quand on est dans une autre pièce pour que l'enfant, entendant la parole, sache que vous êtes présente. D'autre part, nous gardons dans notre cœur les paroles de ceux que nous aimons. Elles ont une place particulière. Dans la journée, à la fin de la journée, les paroles que vous avez retenues, c'est les paroles des gens que vous aimez, en espérant que la parole de Dieu en fasse partie. Le soir, dites-vous, quel évangile a été lu aujourd'hui ? D'autre part, quand une personne chère est décédée, nous regardons nos souvenirs, nous regardons ces paroles qu'elle nous a laissées. C'est une manière de la rendre présente. Vous voyez, la parole, et ce n'est pas l'écriture, la parole est présence de celui qui me parle. Et donc quand Marie garde cette parole de Dieu au fond de son cœur, c'est pour garder la présence de celui qui s'adresse à elle, qui lui parle à elle, qui ne parle pas de manière générale. Je veux dire que toute la parole de Dieu dans son ensemble a été écrite pour vous en particulier. Pour chacun d'entre nous, d'accord, mais pour moi donc en particulier. D'autre part, cette parole de Dieu, Marie comprend que Dieu a le désir de la guider. Et du coup, la parole agit comme une lumière de sagesse pour elle. C'est une lumière qui éclaire qui est Dieu, qui éclaire ce qu'il est pour elle, ce qu'il veut être pour elle, sa manière de répondre, sa manière de se conduire. Et ensuite, par sa volonté de se révéler et de se donner à elle. Dieu veut se révéler, c'est donné à elle, on le verra dans le récit de l'Annonciation. Dernier point, la parole de Dieu réalise la communion. Vous parlez avec les gens avec qui vous êtes en communion. Et le petit signe, c'est, ça vous arrive jamais, mais supposez que vous boudiez. Quand vous boudez, vous retenez la parole pour dire que vous n'êtes plus en communion avec l'autre. Et quand vous lui reparlez, vous dites que la communion est rétablie. C'est pour ça que la parole de Dieu me dit la présence de Dieu, sa lumière qui est donnée pour ma vie, sa volonté de se révéler et de se donner à moi, et la communion qu'il a avec moi. C'est pour ça que Marie garde toutes ces paroles dans son cœur. C'est tellement important. Donc la Magnificat nous révèle donc comment Marie vit depuis toujours de la parole de Dieu, et combien cette parole qui s'incarne en elle, avec le Christ, va la faire exulter de joie à travers ce chant du Magnificat. Mais Marie va garder non seulement la parole de Dieu, notamment celle transmise par l'ange Gabriel, nous allons y revenir, mais aussi tous ces nouveaux événements qui arrivent dans sa vie. Donc pas seulement la parole, mais les gestes de Dieu, de Jésus pour elle. Donc j'en arrive à l'Annonciation. Après l'apparition de l'ange à Zacharie, 6 mois après, l'ange Gabriel vient auprès de Marie. Il commence par la saluer en l'appelant comblée de grâce. Et l'Évangile vous dit que Marie est troublée par cette salutation. Car ce terme n'existe pas dans l'Ancienne Alliance. Dans toute parole de Dieu qu'elle a entendue, ça n'existe pas. Donc ce terme-là est un mystère pour elle. Pourquoi l'ange l'appelle comblée de grâce ? Qu'est-ce qu'il lui révèle ? Le nom donné par l'ange Gabriel à Marie est comblée de grâce. Je te salue, comblée de grâce. Réjouis-toi, comblée de grâce. C'est comme son nom propre, oui. Et ce nom va faire référence au don reçu Marie dans sa conception. Elle est l'Immaculée Conception. Quand Marie se présente à Lourdes, elle ne dit pas « Je suis conçue immaculée », mais « Je suis l'Immaculée Conception ». Une petite nuance. Hein. Marie a été conçue par pure grâce et miséricorde de Dieu, sans la faute originelle. Elle en a été préservée. Et là, dans vos regards, on sent « Waouh, la chance qu'elle a !» Parce que nous, on se débat dans notre marasme, c'est absolument affreux. Je vous signale que nous vivons tous de la même grâce que la Vierge Marie, sauf que la sienne est prévenante et la nôtre est guérissante. C'est la même grâce qui vient de la croix du Christ. Donc la puissance de guérison du Christ est équivalente à la puissance de préservation dans le cœur de Marie. Ne l'oubliez pas. Sauf que nous, notre nostalgie, c'est d'être quelqu'un de bien et pur sans péché. Et donc à chaque chute, c'est « Oh Seigneur !» Alors que le bon Dieu me dit juste, ben, tu te confies à ma miséricorde et puis tu as confiance et tu avances. T'arrêtes de te regarder, mais tu me regardes. Pourquoi ? Donc cette grâce est capable, à travers le pardon et la miséricorde de Dieu, de faire de nous un être nouveau. Mais l'inverse, juste pour vous dire que Marie n'a pas... Pour nous, quand le diable nous tente, c'est facile, vous comprenez ? En 2 temps, 3 mouvements, il nous fait tomber. Pour elle, elle n'a jamais tombé. Donc vous voyez la rage du démon de vouloir la faire tomber. Juste vous imaginez le combat qu'elle a dû mener. Certes, portée par la grâce, mais nous avons la même une grâce, la même mais en guérissant. Mais l'autre facette de ça, c'est que Marie est du coup entièrement dans l'attraction aimante de Dieu sur elle. Rien ne fait obstacle à l'attraction d'amour que Dieu pose sur elle. D'où sa consécration virginale à Dieu, à l'aube de sa vie consciente qu'elle révèle dans la parole. Comment cela sera-t-il puisque je ne connais pas d'homme ? Alors même que le début du texte nous la présente comme fiancée à Joseph. L'ange lui dit, voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. C'est bon, elle connaît Joseph, elle est mariée à lui, il ne reste plus que Joseph la prenne chez elle, donc c'est évident comment ça va se passer. Sauf qu'elle dit, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme ? Ça veut dire qu'a priori, elle a fait un vœu de virginité. Et donc elle pose la question, est-ce que je dois renoncer à ce vœu de virginité pour avoir un enfant normalement ou comment je fais ? Et donc ça veut dire qu'effectivement ça renvoie à cette consécration virginale que l'Église fait dans la présentation de Marie au Temple le 21 novembre, où Marie se donne entièrement à Dieu, dans son âme et dans son corps, comme seule réponse adéquate à l'amour qu'elle sent de Dieu sur elle. Pas d'autre réponse adéquate à cet amour-là que de se donner totalement. C'est une sorte de retour de la gratuité d'amour dont elle se sent aimée. Autre point, Marie ne se regarde jamais elle-même. Par exemple, dans le Magnificat, vous avez cette lumière. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Imaginez, je vous le dis au début de ma conférence, désormais, tous les âges vont me dire bienheureux. Mais le père, il a quand même la melon. Hein. Mais et ça serait vrai pour moi, du coup. Ça serait vrai pour moi. Sauf que pour Marie, étant donné ce que Dieu lui demande, et ce que Dieu lui donne, d'être la mère du Sauveur, elle sait que réellement, cette grâce personnelle, et qui en même temps pour son peuple, et après pour le monde, va faire d'elle une femme dont on dira qu'elle est bien heureuse. Pourquoi ? Parce que Marie se regarde dans la lumière de la grâce de Dieu, et pas par elle-même. Et nous sommes toujours en train de nous regarder nous-mêmes. Et même que, quand on a un petit peu fait des progrès spirituels, on aime se regarder dans le rétroviseur pour savoir le chemin parcouru et s'aperçoit que le point de départ est très très loin de là où on en est. Au lieu de regarder le point d'arrivée, nous sommes faits pour Dieu et nous devons aller vers lui. La seule chose qui importe, c'est comment Dieu me regarde. Et moi, j'aimerais bien savoir comment je serais s'il n'y avait pas la grâce de Dieu, juste moi tout seul, qui est un gros péché d'orgueil, je vous signale. Et on s'en accuse jamais en confession, mais on a tous ce péché. Or, Dieu se plaît à m'entourer de sa grâce et à vouloir que je me regarde dans sa grâce. Vous avez tous au moins un ami ou un conjoint. Imaginez deux secondes que vous disiez « J'aimerais savoir comment je serais si je ne t'avais pas connu. » Imaginez comment on serait content d'entendre ça. Chacune de nos rencontres travaille à devenir ce que nous sommes et ce que nous serons. Nous ne sommes pas seuls, jamais. Donc Dieu est celui qui est le plus présent dans notre vie et c'est lui qui fait ce que nous sommes, autant qu'il peut. Troisième point, donc la consécration virginale de Marie, le fait qu'elle ne se regarde jamais elle-même, en retour de la demande de l'ange, Marie pose une question à l'ange qui ressemble à celle de Zacharie. Zacharie dit « À quoi connaîtrais-je cela, car moi je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge ?» Et Marie dit « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme ?» Ça ressemble, hein. Pourtant, dans un cas, l'ange dit « Ok, moi je suis Gabriel, je me tiens en présence de Dieu, et puisque tu n'as pas cru, tu vas être muet. » Vous imaginez, à chaque fois que nous, si jamais nous ne nous croyons pas, nous devenions muets. Parlez pas beaucoup, hein. Imaginez que notre monde devienne muet à chaque fois qu'il y a un manque de foi. Quel silence dans notre monde, plus de médias, plus rien. Vous imaginez, c'est incroyable ça. Parfois on dit « Seigneur, chiche !» Zacharie émet un doute. C'est pour ça. Et le doute, c'est pas sur le fait de la naissance du Messie, hein. C'est pas ça. Vous voyez, c'est parce que moi je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. Je vous signale que quand, et c'est le cardinal Ratzinger, le pape Benoît XVI qui dit ça dans une de ses conférences, l'ange apparaît liturgiquement à Zacharie au moment où il pose un geste d'attente du Messie. Donc, la réponse, c'est l'ange Gabriel qui vient lui dire, voilà, c'est maintenant. Et toi, tu vas y coopérer parce que tu vas avoir un fils avec ta femme. Et globalement, Zacharie dit, ok, pour la venue du Messie, c'est bon, mais alors moi et ma femme avoir un fils, là, tu vois, c'est quand même un peu gros, quoi. Et du coup, Zacharie, il est vexé, donc il vient. Moi, je suis Gabriel et je me tiens en présence de Dieu. Vous voyez, c'est, il décline son identité, là, c'est. J'aurais pas aimé être à la place de Zacharie à ce moment-là, hein, parce que. Il s'est senti juste bien à côté, quoi. Marie, elle, de son côté, cherche à coopérer immédiatement à la demande de Dieu. L'ange lui révèle que sa coopération est une coopération toute d'accueil. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Si vous avez cette parole, vous savez ce qu'il vous faut faire ? Seigneur, c'est un peu obscur. Qu'est-ce que je pourrais faire ? C'est justement ce que l'ange lui dit. Tu ne fais rien, tu accueilles le don que Dieu te fait. Tu te laisses façonner par ce don. La première chose de la vie intérieure, c'est d'accueillir la grâce de Dieu, de se laisser façonner par ce don. Et nous voulons toujours faire. Et il y a l'image entre Marthe et Marie. C'est pas l'image de la vie contemplative et de la vie apostolique, hein, c'est pas ça. Marie, vous voyez, il y a 13 personnes qui débarquent à la maison, plus les femmes qui les suivaient, donc d'un seul coup, les cuisines, ça doit chauffer. Donc les servantes sont là et elles s'activent aussi aux cuisines. Et puis à un moment donné, on s'aperçoit de deux choses. Un, si Marie donnait un coup de main, peut-être ça irait mieux. Puis deuxièmement, moi je m'active comme une malade, et elle est au pied de Jésus, là, elle ça coule douce, elle laisse les choses se faire. Donc à un moment donné, Marthe explose, « Seigneur, cela ne te fait rien. » Tu vois quand même, hein, donc tu pourrais quand même dire quelque chose. « Ma sœur est là, elle me laisse toute seule. » Et Jésus lui la réveille en disant deux fois, « Marthe, hé Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agis pour bien des choses, ça sert à rien. » Bien sûr que c'est nécessaire de faire le repas, mais il y a quelque chose de plus important, écoute la parole. En même temps, fais ton service, mais sois disponible. Et nous, on veut faire. Donc je caricature, hein, mais de temps en temps, on dit au bon Dieu, surtout tu te tais et tu ne fais plus rien, je fais un truc pour toi. Tu me laisses tranquille, je fais un truc pour toi, et après, quand j'aurai fait, tu m'admireras, d'accord ? Mais pour l'instant, tu ne fais rien, tu dis rien. Vous avez remarqué ça ? On vient les yeux, c'est terrible hein, de voir ça. Seigneur, je fais le ménage pour la veillée pascale, donc tu ne me casses pas les pieds avec ta parole pour l'instant. Ça sera propre ce soir, ça sera très bien. C'est caricatural, bien sûr, mais quand même. Et l'accueil va impliquer la mobilisation de toute sa personne sur cette vie nouvelle qui commence en elle. Et sur le lien nouveau que Dieu tisse avec elle en lui donnant son propre fils. Rappelez-vous la parole de Saint Jean, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, l'unique, engendré. Et Marie se dit, Dieu m'a tant aimé qu'il me donne son fils. Et nous pouvons dire à la suite de Marie, Dieu m'aime tant qu'il me donne son fils à moi. C'est un nouvel amour auquel doit s'ouvrir. C'est un don qui lui est fait, et donc elle doit être accueillie de ce don. Et l'accueil se fait intérieurement par toute la concentration de sa vie sur cette vie qui lui est donnée, mais cette vie qui est la vie du Fils de Dieu, donc qui est en train d'entendre une contemplation silencieuse de Dieu qui vient à elle. Enfin, en lui demandant ce service de la maternité divine, Marie se donne à elle d'une manière Dieu se donne à elle, pardon, d'une manière nouvelle, plus intime, comme un enfant porté par sa mère. Et plus profonde, mobilisant toute son énergie vitale, la vie donnée par une mère à son enfant, tout attentive dans le silence, à cette nouvelle présence qui grandit en elle. Et Marie est entièrement mobilisée sur cette présence. Et elle sait que Dieu l'aime comme une petite enfant bien-aimée, et qu'en même temps, elle va devenir mère pour cet enfant, source de vie, source d'amour, et il faut qu'elle le découvre dans le secret du cœur du Père pour que, comme le Père, elle puisse être. Vous voyez, qu'elle soit mère dans la lumière du Père sur Jésus. Marie, en se donnant ainsi aussi pleinement à elle, Dieu se révèle aussi à elle dans son mystère trinitaire. C'est la première fois où la Trinité est explicitement mentionnée. Voici que tu vas concevoir dans ton sein et enfanter un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, donc il y a un Père. L'Esprit Saint viendra sur toi. Marie va se découvrir peu, donc c'est-à-dire que Dieu ne peut pas lui demander ce service, qui est le service par excellence, permettre l'incarnation du Fils, sans se révéler dans tout ce qu'il est dans son mystère. Ce ne serait pas vrai. Il faut que Marie soit pleinement au courant du mystère divin pour qu'elle coopère pleinement à ce qui se fait en elle. C'est donc pas seulement un service matériel que Dieu lui demande, Dieu lui demande une coopération qui implique sa personne, le don de sa personne. Quand Dieu nous demande un service, il ne vous demande pas d'abord de faire bien un service, même si c'est balayer la sacristie. Il veut le don de votre cœur. Et vous ratez des choses si vous ne donnez pas votre cœur à ce moment-là. Et si vous voyez par derrière, il y a toute la petite voie terrestre qui s'engouffre par là. Ramassez une épingle avec amour. C'est plus que les plus grands discours de tous les théologiens. C'est dommage pour les théologiens, mais c'est comme ça. Vous voyez, Dieu nous demande notre personne dans le don. Et c'est pour ça qu'il se révèle et se donne dans sa personne à la Vierge Marie quand il lui demande ce service de la maternité divine. Du coup, ça va impliquer, alors évidemment, c'est trop succinct ce que je vous dis, il faudrait le poursuivre, mais Dieu, Marie va se découvrir petite fille d'un Dieu qu'il aime avec la tendresse d'un père. En toute vérité, si il lui confie son fils, c'est qu'il l'aime comme un père, avec toute sa tendresse de père pour elle. Et Marie va découvrir, du coup, non seulement un amour divin sur elle, mais la proximité d'un père. Elle va se faire accueil à l'Esprit Saint qui formera en elle un cœur de mère pour le Très-Haut et un cœur de fille pour le Père. C'est l'Esprit Saint qui va l'accueillir, qui va l'aider à devenir père, fille du Père et mère du Fils, puisque l'Esprit Saint est le lien entre le Père et le Fils. Et Marie va devoir devenir mère pour l'enfant de Dieu. Vous voyez, quand Marie va longer l'enfant Jésus à sa naissance, c'est aussi un geste de tendresse maternelle, mais aussi un geste liturgique, puisque c'est Dieu. C'est pour ça que notre liturgie chrétienne doit être familiale et pas pontificale. Je ne dis pas ça à cause du Saint-Père. Hein. Et il va mettre en elle du coup toute sa charité, comme une alliance d'amour entre l'Esprit-Saint et elle, une alliance ponçale. Enfin, il y a une disponibilité plénière de Marie au projet de Dieu sur elle, à la volonté divine sur elle. Tout vient de l'amour de Dieu pour elle et pour son peuple et pour toute l'humanité, pour faire croître l'amour en elle et dans le cœur du peuple qui veut l'accueillir. La réponse de salut de Dieu dépasse infiniment la promesse faite au peuple. Dieu n'envoie pas quelqu'un, il vient lui-même. Il ne vient pas sans tout-puissant, comme au Sinaï pour le don des 10 paroles de l'Alliance, par exemple. C'est pas 10 commandements, hein. C'est 10 paroles de l'Alliance. Le décalogue, les 10 paroles. Parce que les 10 commandements, c'est la forme extérieure de ces paroles. Mais ce qui est au cœur de ces paroles, ce sont 10 paroles que Dieu donne pour faire alliance avec son peuple. Donc c'est une alliance d'amour déjà. Pas l'oublier. Mais évidemment, Dieu, quand il s'est manifesté au Sinaï, vous venez déjà de noyer les Égyptiens, il a ouvert la mer Rouge, il se manifeste au Sinaï, et le peuple, voyant ça, dit « Moïse, écoute, je crois que ce serait bien que toi, tu montes sur la montagne, puis nous, on va t'attendre en bas, hein, tu nous transmettras le message. Oui. » Et là, c'est contraire, c'est Dieu vient comme un tout petit au milieu de son peuple, comme un enfant. Marie va se régler sur la parole de Dieu, sur la volonté divine, pas sur ce qu'elle a compris de celle-ci. Et quand vous voyez la réalisation à la croix des paroles de l'ange, vous pouvez dire qu'il y a un petit écart quand même. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera sur la maison de Jacob, et à la croix vous avez du mal à... Mais Marie croit à la parole telle que Dieu l'a dite, pas telle qu'elle l'a comprise. Et nous, nous réglons notre vie sur la parole de Dieu telle que nous voulons bien la comprendre. Et d'une certaine manière, c'est « Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et ce serait tellement facile si cette volonté correspondait à la mienne. » Mais quand on fait une petite prière de demande, « Seigneur, je te demande quelque chose. Je suis sûr que tu as un projet sur moi et qui est extrêmement bon. Mais juste, je te signale que moi, mon projet sur moi, il est bon aussi. Et que si tu voulais bien regarder, à mon avis, il est même meilleur que celui que tu as sur moi. Si tu voulais bien exaucer, ce serait mieux pour toi et pour moi. On ne le dit pas comme ça, hein. Et regardez bien, c'est pas loin. Si je vous le dis, c'est que je vis comme ça, moi. Peut-être que vous êtes plus sain que moi et que vous vivez mieux que moi. Troisième point de la visitation. La visite de Marie, une fois qu'elle a reçu l'enfant Jésus, vous comprenez bien, c'est un secret qui lui est donné. Ah, juste un petit note à donner. Pour continuer dans l'histoire, que Dieu ne triche pas quand il se donne à Marie. On a tendance à représenter dans une vieille iconographie chrétienne que Saint Joseph est un très vieux monsieur qui épousait une toute jeune fille. Parce que comme ça, c'est la seule manière pour un homme de respecter une femme, parce que sinon c'est pas possible, quoi. Je vous souviens que Victor Hugo, à la fin de sa vie, n'était pas tellement respectueux pour les servants qui passaient à portée de ses mains, hein, parce qu'il avait toujours vécu là-dedans, donc c'était quelque chose qu'il avait complètement... Voilà. Donc ça veut dire que tel qu'on vieillit, tel on est. Et si vous voulez, ce qui est gênant dans cette histoire-là, c'est que soit Dieu fait une véritable famille avec un véritable amour humain, donc ça veut dire que Joseph est un jeune homme qui aime la Vierge Marie et Marie une Vierge qui aime Joseph, en vérité, une véritable tendresse humaine, soit on triche. Je ne vois pas Dieu tricher. Et Dieu est tout à fait capable de former le cœur de Joseph pour qu'il soit l'époux qu'il faut pour Marie. Donc je pense qu'effectivement, il faut juste qu'on regarde l'histoire sainte comme une histoire sainte, et où Dieu est vrai, sinon il triche avec nous, quoi. Or, Dieu s'engage tellement dans l'alliance avec chacun d'entre nous, dans une telle vérité et une telle lumière d'amour, que c'est pas possible de tricher. Vous voyez, je dis ça pour qu'on, finalement, on arrive à lire ce qui est dit, et pas ce que nous, on vit selon notre norme. C'est-à-dire, souvent on réduit la parole de Dieu à ce que nous, on est capable de vivre, mais on ne se laisse pas former par la parole de Dieu pour qu'elle nous permette de vivre ce que Dieu veut nous faire vivre. C'est très caractéristique de notre monde, hein. Réduire la parole de Dieu à un truc très humain. Comme ça, Dieu est vraiment l'un de nous, il n'a rien de plus à nous apporter. Donc c'est le secret de Dieu, et Marie ne peut en parler à personne, ni à Élisabeth et Zacharie qu'elle n'a pas visité, ni même à Joseph, car c'est le secret de Dieu. Autant qu'elle a pu révéler sa consécration originale à Joseph, c'est son secret à elle, autant elle ne peut pas révéler le secret divin de cette maternité divine. Donc, Marie porte cette vie, la vie du Fils même de Dieu qui s'incarne en elle et par elle. Et c'est comme ça qu'elle va auprès de sa cousine Élisabeth pour lui porter secours et aide. Pourquoi ? Élisabeth est âgée, et sans doute ne bouge-t-elle que peu par peur de perdre son enfant, parce qu'elle a déjà perdu d'autres bébés comme ça. Et sans doute craint-elle de demander aide autour d'elle, de peur de révéler une nouvelle maternité qui peut-être encore une fois de plus, n'irait pas à son terme. Donc elle est seule. Qu'elle garde ce secret jusqu'à ce que ça puisse être révélé. Oui, Anna.
Vous dites que seule Marie avait le secret, mais Joseph, il a quand même été visité par l'ange.
Après, quand elle revient d'Ankarem. Quand elle a été visitée qu'à Zacharie et Elisabeth, et c'est à ce moment-là que l'ange vient visiter Joseph. Et Joseph n'a pas de doute sur le fait que l'enfant vient de Dieu, hein. Entendons-nous bien, il ne pense pas que c'est que Marie l'a trompé. Marie est immaculée conception, d'accord ? Une femme ou un homme sans péché, ça se voit. Oui ? Et puis deuxièmement, Marie, Joseph qui prie avec Marie, sait l'intensité de la parole de Dieu dans le cœur de Marie, l'intensité de sa prière, de l'amour de Dieu pour elle et de l'amour qu'elle a pour Dieu. Donc c'est pas possible. Sauf que, comme elle est fiancée à lui, et que Dieu n'a pas... Donc elle est fiancée sans juif, elle est mariée à lui, hein ? Sauf qu'il faut qu'encore elle se déplace chez lui, qu'il accueille chez lui. C'est la seule chose. Mais le mariage est fait. Or, Dieu fait quelque chose en elle sans lui parler à lui. Ça veut dire que Dieu n'a pas besoin de lui. Donc il se retire. D'ailleurs, il est dit que c'est un homme juste. S'il est juste, et que Marie l'a vraiment trompé, il doit la dénoncer au milieu du peuple pour que la faute soit extirpée. C'est normal. Il ne le fait pas parce qu'il peut se dire qu'il n'y a pas de faute. C'est pour ça qu'il a répudié en secret. Encore une fois, c'est l'histoire sainte, hein. C'est pas l'histoire du garagiste qui a rencontré la couturière. Donc Marie vient pour offrir ses services à sa vieille cousine Élisabeth enceinte. Et c'est tout. Ce qui est un service de charité, mais c'est... qui est bon, hein, mais c'est tout. Parce qu'elle fait quand même 10 km. Hein. Et à un moment, vous savez, le début de la maternité, bah, moi je ne sais pas, mais vous, oui. Au moment de son entrée dans la maison d'Élisabeth, l'enfant que celle-ci porte se met à tressaillir en son sein. Vous savez, il y a une très belle chose qui rappelle ça, c'est la danse de David devant l'Arche de l'Alliance. Parce que pour le coup, Élisabeth est vraiment devant l'Arche de l'Alliance. Le véritable lieu de la présence de Dieu, c'est le sein de Marie. Et Élisabeth, remplie de l'Esprit Saint, reconnaît et salue en Marie la mère du trio. Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ? Du coup, la tonalité de la rencontre entre ces deux mères est changée et s'est approfondie. Ce n'est plus Marie qui vient rendre un service à Élisabeth. Ses femmes, et sans doute Zacharie, qui a entendu ou a été mis au courant, se retrouvent autour de la présence du Sauveur, du Messie promis, de Dieu. Bien sûr que Marie va servir Élisabeth et son enfantement. Mais le mystère qui les réunit est celui du don du Messie, avec le fils d'Élisabeth comme précurseur. C'est ça maintenant qui se passe. Marie n'est pas seulement là pour rendre un service. Dieu a fait que ces femmes sont réunies autour de la présence du Messie. Et que celui qui est là révèle le Messie. Donc il est le précurseur. Il révèle Élisabeth, il va le révéler sans doute à Zacharie. Donc il est bien celui qui montre le Messie. On est au terme de toute cette longue histoire, cette longue promesse de Dieu faite à son peuple et cette promesse faite à Adam. Il doit y avoir un silence et en même temps une joie. Le Magnificat en est témoin. Je ne peux pas imaginer que la Vierge Marie n'ait pas dansé dans le Magnificat. En entraînant Marie avec elle, en entraînant Elisabeth avec elle. Un entrain dans la présence de ces deux femmes à Dieu qui est là présent, portée par l'une d'entre elles et leur mutuelle présence. Cette présence de Dieu rend leur lien joyeux, fait d'action de grâce, d'oubli et de don de soi. Quand Dieu est présent, c'est bizarre, il n'y a aucun service qui est trop. Mais dès qu'on se regarde, c'est du coup la réponse c'est injuste, pourquoi c'est toujours moi qui fais les trucs? Pourquoi ça me retombe dessus? Et en plus, mon mari ne voit même pas tout ce que je fais pour lui, quoi. C'est dégueulasse, quoi, vraiment. Alors que quand Dieu est présent, tout va bien. Et si par exemple mon mari en rentrant me dit « Mais c'est super, tu es extraordinaire, je vois tout ce que tu as fait », d'un seul coup c'est bizarre, mon cœur est joyeux. Et Dieu nous dit ça tout le temps. Donc ce lien entre elles rend leur vie joyeuse. Imagine la joie qu'elle fait entre elles. Fais d'action de grâce pour tout ce que tu fais, d'oubli et de don de soi. Vous voyez, ce qui est étonnant, c'est que Dieu met Marie dans le silence en lui donnant son fils. Parce qu'elle ne peut parler à personne du secret. Ce qui mobilise toute sa personne, elle ne peut pas en parler. Et en même temps, Dieu va révéler à Élisabeth ce mystère pour que le lien qui unit ces deux femmes soit vrai et que la charité de Marie vis-à-vis de l'enfant Dieu qu'elle porte soit source d'une intense charité fraternelle à l'égard d'Élisabeth et de Zacharie. Le lien est vrai. Ne triche pas, Dieu révèle à Élisabeth. Et du coup, de ce lien de charité entre elle et son Dieu, découle la charité fraternelle qu'elle va avoir pour Élisabeth et pour Zacharie. Parce que tout le monde sait que Dieu est là présent au milieu d'elle. Vous voyez ça? Tout de suite, il y a une transformation, pas une transformation, mais un prolongement de ce lien de charité qui unit à Dieu dans une charité fraternelle. Oui, madame.
En fait, je pensais aussi que le motif de la visitation de la Vierge Marie chez Élisabeth, c'était la preuve que... Enfin, l'ange avait dit qu'Élisabeth était enceinte. Donc c'était... Elle le croyait déjà?
Elle le croyait, elle était absolument sûre. Vous comprenez bien que si elle avait eu le moindre doute, elle aurait dit à Gabriel, elle dit « Je suis Gabriel, je me tiens en présence de Dieu. » Non, elle n'a pas le moindre doute, mais elle comprend que Dieu l'invite à aller voir Élisabeth. Pourquoi? Parce que Marie a dans sa tête toutes les annonciations et les enfantements de femmes stériles de tout l'Ancien Testament. Sarah, pour Abraham. Anne, la mère de Samuel. La femme de Manoah, la mère de Samson. Et on a dans l'Ancien Testament. Ce qui voulait dire que dans l'Ancien Testament, ce que Dieu montre, c'est que une femme stérile, par sa grâce, peut redonner la vie. Pour bien montrer que Israël stérile peut quand même donner la vie. Ça annonce que Israël stérile va amener par Marie le sauveur au monde. C'est ça que ça annonce. Sauf que dans Marie, c'est une femme vierge. C'est pas une vieille femme qui... C'est une femme vierge. Donc c'est Dieu quelque chose de complètement nouveau. C'est ça que ça veut dire. Et Marie comprend ça clairement. Nous, on est très loin, donc... Oui. C'est qui déjà, Sarah? C'est la femme de qui? C'est Moïse, c'est ça? Non, c'est pas Moïse, c'est qui? Non, mais je sais bien, mais ça c'est nous, vous voyez. Alors, je vous parle de Manoah, vous me dites, c'est qui Manoah? C'est à quel endroit? C'est Samson. Et Samson, c'est qui a des longs cheveux et qui va combattre les Philistins et qui se fait trahir par, non pas Dalida, mais Dalila. Hein. Faites attention. Je dis ça, c'est parce qu'un jour j'avais fait une conférence où du coup j'avais été fatigué parce que je préparais les conférences entre les conférences. Et donc à la fin, j'étais un peu fatigué et du coup j'ai parlé du mariage de Gérard Jugnot et de Caroline de Manacor. Donc bon, c'est méchant. Donc c'est pas Dalida, c'est Dalila. Et puis la mère d'Anne, Anne, la mère de Samuel, le prophète Samuel. Vous savez, celui à qui Dieu dit, Dieu l'appelle. Et il finit par dire, parle Seigneur, ton serviteur écoute. L'intention intérieure et silencieuse de Dieu est source d'une charité fraternelle encore plus forte. La présence de Dieu isole Marie et l'unit en même temps à tous ceux qui attendent et désirent Dieu. Un petit exemple de ça, vous avez peut-être fait déjà des retraites silencieuses. Donc on vous annonce au début de la retraite. Donc les repas seront pris en silence, etc. Avec une lecture, quel bouquin complètement nul, on va nous dire. Et puis on dit, on pourrait pouvoir en profiter. Et puis à la fin de la retraite, parlez avec vos voisins, vous avez toute la semaine et vous avez l'impression que vous connaissez depuis. Ça prouve bien que le silence et l'attention à Dieu nous ouvrent aux autres, contrairement à tout ce qu'on croit. Sinon, pendant un repas, de qui on parle? De la personne la plus intéressante au monde, moi. Et moi, j'ai plein de choses à vous dire sur moi, c'est hyper intéressant, vous allez voir. Chacun de nous est comme ça. Puis Marie rentre à Nazareth et retrouve Joseph, qui sera aussi uni à cet événement par un songe, grâce auquel il va prendre Marie chez lui. Quatrième point, la nativité. En raison du recensement, Marie et Joseph quittent leur lieu de Nazareth, où il y a au moins la famille de Marie, peut-être celle de Joseph, et vont vers Bethléem, où ils vont se retrouver assez seuls et sans solution au moment de l'accouchement de Marie. Comme il n'y a pas de place pour eux, ils sont apparemment assez pauvres, pour rappeler, dans la présentation de l'enfant Jésus au temple, ils apportent deux petites colombes, qui correspondent à l'offrande des pauvres. Hein, vous retrouvez ça dans le Lévitique, au chapitre 12, versets 6 à 8, où on voit que normalement, ils doivent apporter une tête de petit bétail, et s'ils n'ont pas les moyens, ils peuvent apporter deux colombes ou d'un couple de toute arène. C'est l'offrande de Marie-Joseph, donc ils sont apparemment pauvres. Si ça avait été des journées, on aurait trouvé de la place dans l'hôtellerie. Hein. Les gens pauvres, comprenez, on n'a jamais de place. Ah, vous tombez au mauvais moment, vous savez, vraiment, je suis déçu, je suis désolé, vraiment. Heureusement qu'il y avait plein de monde. Hein. Voilà. Marie doit accoucher seule à l'écart, ce qui est une souffrance pour Joseph, hein, parce que Marie, il en est responsable. Vous vous rappelez la parole de l'ange? Tu appelleras, voici que tu. Il doit l'appeler du nom, c'est toi qui l'appelleras du nom de Jésus, et il lui est confié, Marie, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Donc il est responsable, et il n'arrive pas à trouver un logement pour que Marie puisse accoucher. C'est rude pour le cœur de Joseph. Peut-être que les femmes ne comprennent pas, mais les hommes qui sont rassemblés comprennent très bien ce que je veux dire. C'est rude, on est responsable, on veut bien faire, et on est juste à côté, on n'a pas été capable. Et vous avez ça dans le récit des recouvrements. À 12 ans, Jésus fait sa bar mitzvah, d'accord? C'est pour ça que c'est cité. Sa bar mitzvah, ça veut dire qu'il passe. Vous avez ça dans Rabbi Jacob. Les enfants sont à la tribune avec les mères, et à 12 ans, ils descendent en bas, et ils font leur profession de foi, et ils sont capables de lire la parole de Dieu au milieu de tout le monde. C'est ce que Jésus vient de faire, donc il relève de l'autorité paternelle. Première chose qu'il fait, il se barre 3 jours. Et le cœur de Joseph est hyper meurtri, hein. Et Marie prend cette peine sur elle, voit comme nous avons souffert ton père et moi. Oui, ces petites notations sont extrêmement touchantes pour voir le cœur de Marie. Dieu veut à travers ces circonstances que le don qu'il fait de son fils, quand il se donne, et le fils veut aussi quand il se donne, que ce don soit un don personnel pour chacun d'eux et pour leur famille. S'il y avait eu plein de monde comme normalement. Si Marie avait accouché à Nazareth, il y aurait sa famille au moins. Il y aurait eu plein de monde dans la salle d'accouchement. Et Joseph aurait été exclu, évidemment. J'avais découvert ça lorsque j'avais... À Lorient, il y avait un couple franco-africain. La femme était française et le mari était africain. Et donc, pour lui, c'était la famille de la fille qui devait entourer la mère quand elle a l'enfant. C'était normal, lui ne devait pas y être. Et elle était française, donc c'était à son mari d'être à côté d'elle quand elle accouchait, quoi. Et donc, il nous disait que, non. On lui disait, mais écoute, c'est comme ça ici, tu dois être à côté de ta femme parce que ta belle-mère n'y sera pas. Donc c'est à toi d'y être, c'est à toi de lui prendre la main. Il dit, oui, mais moi, je vais être pas bien. Mais quoi? Il y a du sang. Non, il n'y a pas de sang pour un accouchement. Écoute, vraiment, Omer, il n'y a pas de sang pour un accouchement. T'as pas à t'inquiéter, tu dois y aller. Donc il a été finalement, ce qu'il avait cru à ma parole. Et du coup, après, il racontait. À un moment donné, il y avait Véronique qui était là, et elle n'allait pas bien. Et puis, à force d'avoir, elle n'allait pas bien, moi, je n'allais pas bien non plus. Et tout le monde s'occupait d'elle, mais moi, personne s'occupait de moi, quoi, j'allais pourtant pas bien. Puis, on m'a regardé, et puis, père, il y avait du sang, ah bon? Et tu sais, mais moi, je ne connais pas, j'ai jamais été père. Voilà. Donc, vous voyez, là, il y a juste Marie et Joseph. C'est un nom personnel. Un nom personnel dans l'intimité à chacun. Marie l'a dans ses bras, Joseph l'a dans ses bras. Et leur amitié, leur amour en est d'autant plus renforcé. Dieu a permis ça, cette épreuve, pour que le don soit personnel et révéler que le don que Dieu nous fait est toujours quelque chose de personnel. toujours. Et c'est pour que notre cœur soit un peu dans la solitude. Cette solitude est pour que le don de Dieu soit personnel. Parfois, Dieu permet certaines solitudes pour se donner davantage. C'est un don de personne à personne. Vous voyez, dans les synoptiques, on a eu ça pour l'évangile d'André hier, Jésus appelle 4 disciples. C'est en commun. Dans l'évangile de Jean, Jésus appelle Jean et André, puis Pierre, puis Philippe, puis Nathanaël. On dit, mais qu'est-ce qu'il fait comme temps, quoi? Non, parce que l'appel est personnel. Le don de Dieu est toujours personnel. Et dans le silence. Ceci permet une plus grande attention à ce don de Dieu qui mobilise toute la personne, celle de Marie, celle de Joseph, et aussi permet une réponse intense, silencieuse et personnelle et commune des deux. Marie et Joseph découvrent que la présence réelle et personnelle de Dieu se fait à travers une remise totale de tout lui-même dans une dépendance complète à l'amour et à l'attention aimante de Marie et Joseph. Premier message de Jésus, c'est « Je dépends de toi, de ton attention aimante sur moi, de ta tendresse pour moi. » Voilà ce que Dieu dit quand il vient en ce monde. « Je suis aussi dépendant de votre amour qu'un petit enfant l'est de sa mère. Je suis aussi démuni devant votre réponse qu'un petit enfant devant sa mère. » On est loin du Dieu tyran, hein? C'est le mystère de Noël. Le don d'un enfant ouvre nos cœurs. Vous avez remarqué? Même quand on est ronchon, quand on est dans une maternité, quand on a vu le petit, tout va bien. C'est étonnant, hein? Et la maman vous dit, vous ne trouvez pas que c'est le plus beau bébé du monde? Et que même quand vous trouvez que c'est pas du tout le plus beau bébé du monde, parce que pour le coup celui-là il est pas un peu raté, vous n'avez même pas dit à son nom, il faut pas exagérer quoi. Dites, il est mignon. Ou alors vous dites, il ressemble à qui? Faut pas répondre à la question. Et oui, Dieu se fait dans une totale remise de tout lui-même. Quelle incroyable délicatesse de Dieu. Et vous avez remarqué aussi que ça ouvre notre cœur à la tendresse et au silence. Dans toutes les autres chambres d'hôpital, ça y est, celui qui souffre dans son lit, qui a la jambe brisée avec un plâtre, puis tout le monde parle autour de son lit, mais lui parle pas à lui. En revanche, quand on est devant dans une crèche, dans une maternité, tout le monde est devant l'enfant et tout le monde se tait. C'est étonnant, même les plus bavards se taisent. Et on regarde le petit bébé. Alors, vous comprenez à quel point, alors là, je vous fais une blague, hein, à quel point l'enfant peut être traumatisé parce qu'il est là dans son berceau. Puis il y a le vieil oncle qui tombe, qui le regarde avec un épisode. Ah, il est mignon, ce petit! On dit que ça le traumatise, l'enfant. Donc, le don d'un enfant ouvre nos cœurs, le met dans un état de tendresse et d'émerveillement. Dieu veut susciter ça dans notre cœur quand il vient. De dépassement de toutes nos tristesses et de nos amertumes. C'est ce que Dieu veut produire, ce que Jésus veut produire en nos cœurs dans le don personnel qu'il nous fait. Et de la même manière qu'à la visitation, les anges préviennent des bergers dans les environs pour qu'ils puissent se rendre jusqu'à l'endroit de l'incarnation, la crèche de la nativité. Ce sont les plus pauvres, les plus isolés qui seront les premiers à participer à la joie de la nativité. Le don de charité que Jésus réalise par le don de sa personne s'épanouit en charité fraternelle entre Joseph et Marie, hein, qui les unit encore plus et fait grandir leur amour humain et de charité, et à l'égard des bergers, puis plus tard des mages. Et c'est bizarre, mais dans ces cas-là, c'est Marie qui va donner à chacun d'eux son enfant, comme une mère présente son enfant à ses visiteurs. Nous recevons le Christ des mains de Marie. Vous voyez, nous devrions dire en nous approchant de la crèche que la Vierge Marie nous dit « Est-ce que tu veux le prendre ?» Vous diriez quoi? On sent un peu comme Pierre au moment de la montre. « Viens, je veux... Prends-le. Prends-le, il est là pour toi. » Ça va? Je vais encore faire avec vous la présentation de Jésus au temple, puis ensuite je répondrai enfin à ma question, Marie, modèle des âmes intérieures. Tout le reste était une digression. Il y a deux événements 40 jours après la naissance de Jésus. Premier, qui sont conjoints, la présentation de Jésus au temple et le rachat des premiers-nés. Rappelez, il y a les premiers-nés des Égyptiens qui meurent pour permettre la libération du peuple d'Israël, et Dieu demande en compensation qu'à travers tous les âges, les premiers-nés, aussi bien les animaux que les humains lui soient consacrés, et on vient les racheter. Autant, d'accord? Et deuxièmement, la purification de la Vierge Marie. Vous savez que la perte de sang doit être toujours purifiée dans l'Ancien Testament. À cette occasion, Marie et Joseph, qui accomplissent les prescriptions de la loi, vont rencontrer le vieillard Siméon, qui est peut-être un prêtre, puisqu'il bénit Joseph et Marie, qui est poussé au temple par l'Esprit Saint, lui. Marie et Joseph, qui sont du Nouveau Testament, obéissent à la loi. Ils rencontrent l'homme de l'Ancien Testament, qui est poussé par l'Esprit Saint. C'est étonnant, hein? Et il reconnaît en Jésus le Messie d'Israël, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Et il prophétise l'opposition que Jésus rencontrera dans sa mission et le fait que Marie en aura le cœur transpercé. Alors juste, je fais un petit retour en arrière, mais pour prolonger à travers ça. Pour être en vérité devant l'enfant Jésus. Vous savez ce qu'on raconte comme histoire, c'est... Devant la crèche, il y a des franciscains qui passent. Et du coup, les franciscains disent « Quel bellissima bambino, qui touche mon cœur, c'est merveilleux, il est beau, il est gentil, il est merveilleux. » Pendant ce temps-là, il y a un dominicain qui explique à la Vierge Marie le mystère du Verbe incarné. On avait ça pour d'accord. Et je vais être méchant là, donc s'il y a des gens liés au Jésus, je m'en parle en avance. Hein. Et du coup, il y a deux jésuites qui sont là, et l'un des deux dit « Tu crois que l'emploi a dans nos écoles ?» Dans « C'est un fils de pauvre ». Alors c'est Jésus qui ouvre les yeux, mais il voit l'âne et le bœuf, et il dit « Tu parles de la compagnie de Jésus ?» On ne vous le répétez pas. Hein. Donc, juste pour être en vérité devant l'enfant Jésus, nous on a l'habitude de regarder la crèche comme un magnifique, vous voyez, avec une tendresse humaine. Je vous rappelle juste que l'enfant que Marie porte dans ses bras, elle va l'adorer pour être en vérité. C'est son Dieu. C'est son enfant, à qui elle sa tendresse humaine, mais c'est son Dieu, donc elle doit l'adorer. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que Jésus, Joseph et Marie regardent l'enfant Jésus, il doit faire un acte de foi, d'espérance et de charité, qui assume et dépasse le rapport simplement humain qu'il pourrait avoir avec l'enfant. Juste pour être en vérité, hein, sinon il triche. Il s'approprie l'enfant, qui est l'enfant Dieu. Tout le temps, il doit se faire ce dépassement. Donc ils vivent dans cette... Ils vivent de cette présence dans la foi en la parole de Dieu transmise par l'ange, dans l'espérance de la réalisation des promesses faites à Abraham, à Moïse, à tous les prophètes, et du salut promis par Dieu à Adam et Ève, et la charité ouverte en leur cœur par le don de la personne même de Dieu. Mais à partir de cette prophétie de Siméon, qui n'est pas exactement la même promesse que l'ange Gabriel avait faite à Marie, la foi, l'espérance et la charité de Marie et Joseph doivent intégrer ces paroles si étranges sur la destinée de Jésus. Il sera un signe de contradiction. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Donc, il y aura un mystère de souffrance au terme. C'est pas comment. Il y aura quelque chose qui brisera le cœur de Marie. Mais en même temps, vous comprenez la délicatesse de Dieu qui a fait quoi? Vous croyez que Joseph entend ça sans avoir le cœur transpercé? Vous croyez que le glaive qui touche le cœur de sa femme ne va pas jusqu'à son propre cœur? Joseph est comme associé par avance à la passion qu'il ne vivra pas. Et c'est la même chose dans le recouvrement au temple. Jésus est absent dans le tombeau combien de jours? Combien de jours il est absent de Joseph et Marie?
3 jours.
Il y a un rapprochement que Dieu veut. Il fait participer Joseph à l'avance à la passion pour que son père ne soit pas exclu de cela. Juste que vous voyez la délicatesse du cœur de Dieu. Et il le retrouve. Comme Marie retrouvera Jésus à la résurrection, d'accord? Parce que vous voyez la délicatesse, c'est juste parce qu'on a l'habitude, nous, d'un Dieu tyran. Mais déjà, dans l'Ancien Testament, si on voulait bien voir, quand vous êtes père et mère, c'est Dieu qui décide du haut du ciel. Quand il tire les fils des marionnettes, il dit « Ok, un bébé par ici, un bébé par là, vous voyez ?» C'est le choix d'un homme et d'une femme de s'unir dans l'amour, et d'avoir le désir d'une fécondité qui fait que Dieu répond en prenant sur la seule chose que Dieu est seul à pouvoir faire, c'est créer une âme. Dieu répond et engage son pouvoir créateur à l'initiative de l'homme et de la femme dans leur amour. C'est loin l'image d'un Dieu tyran, juste il faut vous garder ça en tête. Voilà, conclusion, Marie modèle les âmes intérieures. Donc je vais reprendre un tout petit peu ce que j'ai disséminé ici et là. En quoi Marie peut-elle être dite pour nous modèle des âmes intérieures? Sa vie est toute ouverte sur l'accueil, la garde et la méditation de toute parole venant de Dieu, comme de sa nourriture nécessaire et indispensable. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Bien sûr, c'est le pain quotidien, c'est la parole de Dieu, et c'est aussi l'Eucharistie. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. de moi le pain de ta présence, de ton amour, sans ça je ne pourrais pas vivre. En toute vérité, il m'est plus indispensable que le pain quotidien. Vous voyez, nous entendons quantité de paroles dans notre journée. En nous levant, nous parlons à ceux qui nous entourent. Puis nous allons dans la voiture, nous allumons la radio. Nous entendons les paroles de la radio, des paroles si intelligentes et si indispensables, qui nous découvrent toujours la réalité du mystère du monde, n'est-ce pas? Puis nous parlons à nos collègues de bureau, nous parlons au téléphone à nos appels, nous avons lu distraitement la parole de Dieu ce matin, de quoi parler déjà l'Évangile. Et le soir, quelle parole vous gardez dans votre cœur? Quelle parole à garder tout au long de votre journée? Ça ne veut pas dire qu'il faut se faire une petite fixette, oui. Mais en vrai, est-ce qu'il n'y a pas une parole dans l'Évangile que j'ai entendue que je peux garder dans ma journée? Pour avoir l'esprit tourné vers Dieu, comme Marie, comme ma nourriture nécessaire. Et de la réelle lumière qui éclaire sa vie, la parole de Dieu. Ce qu'elle reçoit de Dieu, la réponse que Dieu attendait. Elle a besoin de la parole pour ça. Donc, l'âme intérieure, elle est celle qui garde la parole de Dieu comme un signe de sa présence, de son amour, comme une lumière pour agir, comme une lumière de l'action de Dieu dans sa vie. Deuxième point, elle cherche par-dessus tout à répondre à l'amour que Dieu a pour elle. Elle n'a comme moyen que l'obéissance à la volonté divine. Comprenant ses desseins, parfois difficiles, voyage et naissance à Bethléem, prophétie de Simeon, comme des dons d'amour de Dieu pour elle. La volonté divine, elle sait qu'elle n'est qu'une volonté d'amour, qui passe parfois à travers notre cœur humain, blessé, petit, pour nous en tout cas, à travers nos contradictions, notre péché, nos insuffisances, et elle est parfois comme le glaive à double tranchant qui révèle nos intentions réelles. C'est pas toujours très drôle de se savoir petit, égoïste, super égocentré. Ouais, la parole de Dieu révèle ça en nous. Mais elle le révèle à travers une lumière qui est toujours une lumière de miséricorde et d'amour. Si je te révèle cela... Ah oui, Seigneur, j'ai compris, c'est pour guérir. Non, c'est pas pour guérir. C'est pour que tu te fies à moi. Que tu te fies à moi, que tu me fasses confiance. Oui, mais Seigneur, ça va rien changer? Non, tu seras toujours pleutre, égocentré, égoïste, ça s'améliorera un petit peu, hein, clairement. Mais au moins, tu me feras confiance et tu t'en remettras davantage à moi, et du coup, je pourrai davantage agir en ta vie. Et je vais pas être quelqu'un de mieux? Non, c'est pas le but. Vous comprenez là où il y a le problème pour nous? J'aimerais pouvoir me dire à la fin de la journée, Seigneur, en toute vérité, je n'ai pas péché. Certes, il y a ta grâce, mais quand même, tu as vu ce que j'ai fait comme effort. Marie, elle vit la volonté de Dieu. Et pourquoi je dis ça? Parce que ça n'a pas l'air de la volonté divine. Si, la volonté divine, c'est une alliance entre Dieu et moi. Je te donne le chemin. Je te dis mon intention. Parce que c'est une intention aimante sur toi. Et quelque chose qui te conduira en lieu sûr. Si tu n'écoutes pas ma parole, tu vas te faire du mal. Si tu ne te fies pas à ma volonté comme une volonté qui t'aide. Vous voyez, parfois, je prends un exemple. Comme prêtre, on est obligé de dire à certaines personnes, je vous le demande en obéissance. C'est jamais quelque chose de positif, c'est quelque chose de négatif. C'est-à-dire que on le vit comme un rétrécissement de notre liberté. Or, bien souvent, quand nous faisons ça, nous voulons empêcher la tentation de l'autre. Mon père, je me sens pas digne d'aller communier, donc quand je me sens pas digne, j'y vais pas. Je vous demande dans l'obéissance d'y aller à chaque fois. J'éloigne de vous la tentation. Je vous lie à la volonté aimante de Dieu qui veut que vous approchiez de lui. Oui, comme c'est autre chose la volonté divine. La volonté, elle se fait comme une force pour vous arc-bouter face aux tentations du démon. J'obéis. Et le démon déteste l'obéissance. Troisième point, nécessité du silence intérieur pour laisser pénétrer cette parole, pour laisser pénétrer cette volonté, pour y découvrir son lien avec l'amour de Dieu pour moi. Quatrième point, nécessité voulue par Dieu de la charité fraternelle, c'est-à-dire de la transmission à d'autres de l'amour reçu de Dieu. Charité vécue dans une très profonde joie intérieure et un don de soi. Service de Marie à une carême, l'accueil de Marie auprès des bergers et des mages à Bethléem, ouverture à tout ce que Dieu m'envoie, et en découvrant qu'ils sont envoyés par Dieu. Vous voyez, il y a deux manières de faire quand la porte sonne. Encore quelqu'un, mais c'est pas possible, quoi. Quand est-ce qu'on va être enfin tranquille dans un repos bien mérité? Vous vous demandez, Seigneur, tu m'envoies quelqu'un? Ok, ben je suis disponible. Je prends un petit exemple. À Brignoles, j'avais des emplois du temps un peu surbookés. Et donc quand est arrivé le moment du soir, à 20h30, j'avais parfois un rendez-vous de préparation de mariage, parce que c'est le moment où les couples étaient disponibles. Ou de préparation de baptême. J'ai dit, Seigneur, je ne demande pas grand-chose, mais la voiture ne démarre pas ce soir. C'est possible, ça? Elle ne démarre pas et j'en ai marre de moi. Ou alors, il y a quelqu'un qui vient à la police, ou alors ils ont oublié, ils ont simplement oublié, je ne leur voudrais pas, et s'ils oublient, je ne leur voudrais absolument pas. Et à ce moment-là, sa porte sonne. Non, c'est pas vrai. J'ai plus de force, comment je fais? J'ai ouvert la porte, je dis bonjour, venez avec moi. Et là, j'ai 10 secondes pour qu'il se passe quelque chose, parce que sinon, ça ne va pas faire quoi. Et donc, ils sont installés, et puis du coup, j'essaie vraiment de me donner, de pas expédier la chose, oui, d'y être présent autant que je peux. Puis à la fin, je les raccompagne à la porte, et c'est bizarre, mais je suis partant pour une autre préparation. Oui. Si je me fie à la volonté de Dieu, à son amour au fond de moi, Dieu me donne toujours. Il n'empêche pas la voiture d'arriver, mais il renouvelle mon cœur dans la queue de ces gens. D'accord ? L'amour de Dieu est toujours lié à la charité fraternelle. Donc, je vous invite à ne pas tant imiter Marie, parce que l'imitation, ça ne marche pas, mais de la laisser nous éduquer maternellement. Pourquoi est-ce que Jésus nous la donne comme mère ? Pour qu'elle nous éduque comme une mère. Pour regarder notre vie d'une manière nouvelle et plus profonde. Vous êtes un mystère pour vous-même. Vous savez le lieu où la grâce vous rejoint ? Vous savez ce que la grâce de Dieu fait en vous ? Vous savez comment Dieu vous veut ? Vous ne savez pas, hein ? Pourtant, vous vous jugez. En plus, vous jugez votre prochain, vous avez encore moins. C'est un peu couillon, quoi. Vous êtes un mystère pour vous-même, et votre voisin aussi. Et Marie nous aide à regarder à travers ce mystère, puisque là, il y a un don de Dieu. Il y a une lumière divine de charité. Elle nous permet aussi d'ouvrir notre cœur et notre intelligence à la parole de Dieu, qu'elle devienne une parole vivante. Et au sacrement, comme des gestes de vie du Christ pour moi. Sacrement, ce n'est pas juste un truc inventé par l'Église. Hein. Par exemple, dans l'Eucharistie, pourquoi est-ce que Jésus a inventé l'Eucharistie? Parce qu'il fallait bien occuper les hommes. Non, pas seulement. Quand Jésus meurt sur la croix, qu'il glorifie le Père et qu'il nous sauve, c'est l'acte du plus grand amour sur terre. Il n'y a jamais eu un moment de plus grand amour, de réalisation plénière des desseins de Dieu, d'accomplissement de ce qu'il veut pour nous. Et c'est ballot, mais vous n'y étiez pas, et moi non plus. On a raté ce truc-là, c'est quand même ballot, quoi. Hein. Sauf que dans chaque Eucharistie, vous y êtes. Vous y êtes. C'est comme si Jésus s'offre sur la croix. C'est comme si Jésus vous donne sa mère. C'est comme s'il vous offre son cœur transpercé. Vous y êtes. Donc chaque sacrement est un geste d'amour du Christ pour vous. Et quand Jésus, quand vous allez vous confesser, c'est le truc qu'on ne fait surtout pas parce que c'est désagréable au dernier degré, quoi. Et en plus, le curé va nous juger. Moi, j'ai un jour, il y a un vieux prêtre qui m'a accueilli. J'ai dit, mon père, je demande pardon parce que j'ai fait ça. Ça va voir aussi. Mon père, je demande pardon parce que j'ai fait ça. Ah, mais moi, plus que toi, tu savais. En fait, le prêtre m'a révélé qu'il était comme moi. Et juste que, quand j'étais prêtre, j'ai découvert que, d'un seul coup, Dieu mettait à ce moment-là dans moi une miséricorde incroyable où ma seule question c'est comment la miséricorde de Jésus va-t-elle rejoindre cette personne qui est en face de moi? Comment va-t-elle toucher son cœur? Et en fait, dans chaque sacrement pénitent, c'est Jésus qui dit moi non plus je ne te condamne pas. Ah, et désormais ne pêche plus. Mais la question de la femme adultère, la question la plus ridicule de tout l'évangile. Jésus vient de virer les pharisiens puisqu'il leur a dit que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. Ils sont tous barrés. Et Jésus tourne à cette femme en disant, alors femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné. Seigneur, c'est toi qui viens les chasser, donc normalement il n'y a plus personne. On ne pose pas la question à cette femme, on peut donner la réponse. Hein.
Et c'est les plus vieux qui sont partis en premier.
Oui, parce que eux, vous comprenez, ils avaient plus confiance de leur. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que tout le regard de ces hommes sur cette femme était un regard de désir et de haine. Et que Jésus n'a jamais associé son regard. C'est notamment pour ça qu'il écrit sur le sol. Il n'associe pas son regard au regard des autres. Mais quand tout le monde est parti, il peut la regarder comme il veut la regarder. Mais s'il a besoin, cette femme le regarde. Alors il pose une question. Tu vas me regarder maintenant? Regarde mon regard pour toi. Pas de haine, pas de désir. Juste un regard qui redonne la vie, puisque je t'appelle femme. Je ne te regarde pas comme la pécheresse ou la déesse, mais comme une femme. Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné. Elle finit par le regarder pour dire personne, Seigneur. Moi non plus, Je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Vous voyez ? C'est cette parole-là que je dois entendre. C'est cette expérience-là que je dois vivre à chaque fois que je vais me confesser. Mais vous le faites, donc il n'y a pas de problème. Et en fait, je dois ouvrir aussi mon cœur à la joie de la charité en dépassant mes amertumes, mes aigreurs, mes tristesses et la joie de nos mutuelles présences. Marie nous éduque à ça. Nous laisserons donc nous éduquer en ce temps de l'Advent. Je suis désolé, j'ai pris 5 minutes de plus.
Merci beaucoup.